un terrien et autres formes de vie. Sachez-le, la vérité est sur Radio Sainte-Afrique pendant l'heure fantastique. Espace, frontière de l'infini vers laquelle je voyage. Ma mission, explorer la littérature, le cinéma et la télévision, découvrir les grands thèmes du fantastique et de la science-fiction et, au mépris du danger, reculer l'impossible. Joignez-vous à moi et partez explorer de nouvelles planètes, des mondes étranges, rencontrer des créatures merveilleuses ou effrayantes, mais surtout, restez prudents, car ils sont parmi nous. Bonjour et bienvenue à tous sur Radio Sainte-Afrique pour la saison 2 de l'Heure Fantastique, l'émission dédiée au fantastique sous toutes ses formes. Alors voilà ce qui va se passer. On commencera par un petit tour à travers les œuvres, qu'elles soient littéraires, cinématographiques ou télévisuelles. On n'est pas fermé, mais toujours en lien avec un thème donné. Après ça, on retrouve l'inégalable rubrique du film De Pucelle, où l'on évoquera une daubasse pour jouvencelle, parce qu'on est aussi là pour se moquer un peu. On continuera avec une nouveauté, l'interview du fan. Ce mois-ci, c'est Vincent que nous accueillerons et qui parlera de sa passion pour la SF en général, et pour un film en particulier, en lien avec notre thème, mais je vous laisse encore un peu le suspense. Enfin, nous terminerons cette émission par les traditionnels conseils, les trucs et astuces nécessaires pour survivre dans cet univers fantastique. Lors des émissions précédentes, nous avons regardé en arrière dans le temps, à la recherche du valeureux roi Arthur ou des dangereux dinosaures. Terminez tout cela. L'heure fantastique 2.0 est là. Préparez vos cartes mémoire, dégainez votre clé USB, rechargez votre batterie, prenez garde aux bugs et aux virus. Notre thème ce mois-ci sera les ordinateurs. Ils sont beaux, ils sont puissants, ils sont intelligents, bien plus que nous. Et c'est là que ça devient un peu gênant en fait. Allez, avant de nous lancer, une dédicace à tous ceux qui m'ont aidé à trouver des sons sympas pour coller avec le thème de cette émission. Et l'on commence par une petite musique en 8 bits, qui, comme me l'a gentiment précisé, n'a rien de sexuel. Notre première référence dans ce petit tour de l'univers numérique est un classique. Incontournable, inégalé, légendaire, c'est 2001 Odyssée de l'espace, le film de Stanley Kubrick, coécrit avec Arthur C. Clarke. Ce dernier sortira un roman en 1968, la même année que le film, à partir du scénario, roman que je conseille pour l'avoir lu et apprécié. Il a d'ailleurs reçu en 1985 le prix Nebula Grand Maître, une récompense littéraire qui console un peu les fans. En effet, certains ont encore du mal à encaisser la cérémonie des Oscars de 1968 où Oliver remporte l'Oscar du meilleur film à la place de 2001. Mais aujourd'hui, qui se souvient de Oliver ? Michael Mallory, dans le livre « L'univers de la science-fiction et au-delà », qualifie ainsi 2001 de « meilleur film de science-fiction jamais écrit ». La première partie du livre et le début du film nous montre un curieux monolithe noir qui interagit très mystérieusement avec les hommes préhistoriques. c'est la fameuse scène du bâton, où Guetteur de Lune, c'est le nom du personnage, s'excite tout seul en tapant sur des os. Le tout sur cette fabuleuse musique de Richard Strauss, ainsi parlé Zarathoustra. Et là, fondu enchaîné, on saute quelques millénaires, passage à la seconde partie du livre comme du film, où l'on peut observer satellites et astronefs dérivés dans l'espace sur le beau Danube bleu. L'ellipse est formidable. En quelques secondes, on a passé des dizaines de siècles de développement technique pour arriver à l'âge du voyage spatial. C'est sans doute ce qui fait de cette scène l'une des plus connues de l'histoire du cinéma, l'une des plus parodiées également. Je vous invite d'ailleurs à m'envoyer vos reprises préférées sur la page de l'émission ou sur Twitter. Elles sont nombreuses et toutes pleines d'humour. Mais reprenons notre histoire. Tandis que les hommes gigotent joyeusement dans l'espace, un second monolithe est découvert sur la Lune. Profondément enfoui, il a été placé là, par qui, des milliers d'années plus tôt. À peine a-t-il été déterré qu'il commence à émettre en direction de Saturne. Troisième partie du livre comme du film, le voyage à la recherche de ce mystérieux signal et de ceux qui auraient pu le capter. C'est cette partie-là de l'histoire qui nous intéresse, car c'est à ce moment que nous trouvons de la matière pour notre thème. En effet, à bord du vaisseau spatial, la petite équipe d'astronautes et de scientifiques est assistée par un ordinateur de bord. Carl dans le livre, Hal dans le film. Pour la petite anecdote, la légende veut que le nom de Hal, utilisé au cinéma, possède un sens caché. Si l'on prend la lettre suivante dans l'alphabet, H-A-L devient I-B-M. Et au vu de la suite de l'histoire, ce n'est pas une très bonne pub. Car le fameux ordinateur de bord est peut-être très puissant, très intelligent. L'ordinateur le plus perfectionné qui fut, cerveau et centre nerveux de l'astronef, comme le dit le roman. C'est aussi un gros psychopathe. Les progrès techniques sont tels, comme l'imaginent Kubrick et Clarke, que l'on devient capable de produire une machine qui pense. Non pas qui imite la pensée humaine, mais qui pense réellement, comme un homme, en plus puissant, plus rapide et plus flippant. Bowman et Paul, deux membres d'équipage réveillés, les autres devant rester endormis jusqu'à l'arrivée aux environs de Saturne, vont rapidement s'apercevoir du danger que représente l'ordinateur. Ce dernier commence à dissimuler erreurs et pannes, faisant courir un risque à la mission et à l'équipage. L'ordinateur connaît en fait le véritable objectif de la mission, l'absence de retour prévu à l'expédition, l'histoire du monolithe et la supposition d'une intelligence extraterrestre à son origine. Toutes choses qui n'ont pas été révélées au public pour des raisons politiques et que Bowman et Paul ne devraient apprendre qu'en arrivant sur Saturne. L'obligation au mensonge qui est imposée à l'ordinateur rend ce petit bijou de technologie très névrosé et, l'expression est tout à la fois à prendre au sens propre et au figuré, il en grille un fusible. Les circuits en folie, il se sent de plus en plus menacé par les astronautes qui soupçonnent chez lui un bug. Alliant paranoïa et psychotisme, il décide carrément de continuer la mission en solo et de supprimer ces humains décidément très encombrants. seul Bouman survit et se trouve forcé pour cela de lobotomiser l'ordinateur. Il ne suffit pas en effet de débrancher la prise comme à la maison, mais il faut détruire le centre nerveux de la machine, tout en conservant les mécanismes automatiques nécessaires au fonctionnement de la navette. Il y parvient, retirant un à un les blocs mémoire qui constituent l'esprit de l'ordinateur. L'opération est délicate, risquée et surtout éprouvante pour l'astronaute qui, seul à l'autre bout du système solaire, est en train de tuer la seule autre intelligence avec laquelle il aurait pu converser, échanger ou interagir. L'histoire ne s'arrête pas là, mais comme il n'y est plus question d'ordinateur et que je n'aime pas spoiler, je vous laisserai aller la découvrir ou redécouvrir par vous-même. Avant de passer à la suite, on s'écoute un petit bout de la BO culte d'un film tout aussi culte, et on va flotter dans l'espace avec Richard Strauss et le beau Danube bleu. Quitte à devenir complètement parano devant nos écrans, on passe d'un ordi psychopathe à l'élaboration par les machines d'un programme informatique conçu pour endormir les humains dans une douce illusion et utiliser l'énergie dégagée par leur corps. Matrix, évidemment. Ce film, réalisé par les frères Wachowski et sorti en 1999, sera suivi par deux autres volets, avec lesquels il constituera une trilogie qui trône dans les meilleurs DVD tech de la planète. Matrix, c'est non seulement une référence culte de la SF, mais ce film est lui-même construit à partir de multiples références qui font à la fois sa richesse et son originalité. Je n'en ferai pas la liste exhaustive, tant elles sont nombreuses, mais certaines m'apparaissent essentielles. Par exemple, le terme « matrix », la « matrice » en français, dans son sens cyber-fantastique, apparaît pour la première fois dans un épisode de la série « Doctor Who ». Quant à la tenue des capitaines de vaisseau, comme Morpheus ou Niobe, il n'aura pas échappé aux fans qu'elle ressemble beaucoup à celle des officiers de la série Star Trek. Les références mythologiques, dans les noms des personnages essentiellement, ainsi que littéraires, sont également nombreuses. Lewis Carroll est d'ailleurs invité au bal dès le début du film, à travers l'évocation du fameux lapin blanc, celui-là même qui guide Alice vers le pays des merveilles. La réflexion de Lewis Carroll sur le rapport entre réalité et illusion est d'ailleurs au centre du film. Et parce que il était inévitable que j'en parle en tant que prof de philo, la référence à l'allégorie de la caverne évoquée par Platon dans La République est également centrale. Pour ceux qui auraient séché le cours de philo en terminale, l'allégorie de la caverne raconte l'histoire d'un prisonnier enchaîné dans une caverne depuis son plus jeune âge, habitué avec ses semblables à vivre dans l'obscurité et à ne distinguer que des ombres projetées sur le mur du fond de la caverne. Soudain, le prisonnier est délivré de ses chaînes et poussé, contre son gré, à l'extérieur. Là, il comprend qu'il a vécu toute sa vie dans l'illusion et qu'il contemple enfin la vérité. Il retourne alors dans la caverne, dans l'intention de délivrer ceux qui y sont encore enchaînés. Mais ces derniers ne le croient pas et s'en prennent violemment à lui lorsqu'il essaie de les libérer. Matrix suit un scénario qui, pour être un peu plus rock'n'roll, est tout de même très similaire. La caverne a simplement été remplacée par un programme informatique. Neo, le personnage principal, est ainsi abordé par Trinity et Morpheus, qui vont le délivrer de ses illusions et lui faire comprendre que le monde dans lequel il croit vivre n'existe pas réellement. Osera-t-il en sortir et découvrir la vérité ?
Je suppose que pour l'instant tu te sens un peu comme Alice, tombée dans le terrier du lapin blanc.
On pourrait dire ça.
Je le lis dans ton regard. Tu as le regard d'un homme prêt à croire tout ce qu'il voit parce qu'il s'attend à s'éveiller à tout moment. Et paradoxalement, ce n'est pas tout à fait faux. Crois-tu en la destinée, Néo ?
Non.
Et pourquoi ?
Parce que je n'aime pas l'idée de ne pas être aux commandes de ma vie.
Bien sûr, et je suis fait pour te comprendre. Je vais te dire pourquoi tu es là. Tu es là parce que tu as un savoir. Un savoir que tu ne t'expliques pas, mais qui t'habite. Un savoir que tu as ressenti toute ta vie. Tu sais que le monde ne tourne pas rond sans comprendre pourquoi, mais tu le sais. Comme un implant dans ton esprit. De quoi te rendre malade. C'est ce sentiment qui t'a amené jusqu'à moi. Sais-tu exactement de quoi je parle ?
De la matrice.
Est-ce que tu veux également savoir ce qu'elle est ? La matrice est universelle. Elle est omniprésente. Elle est avec nous ici, en ce moment même. Tu la vois chaque fois que tu regardes par la fenêtre ou lorsque tu allumes la télévision. Tu ressens sa présence quand tu pars au travail, quand tu vas à l'église ou quand tu paies tes factures. Elle est le monde qu'on superpose à ton regard pour t'empêcher de voir la vérité.
Quelle vérité ?
Le fait que tu es un esclave, Néo. Comme tous les autres, tu es né enchaîné. Le monde est une prison où il n'y a ni espoir, ni saveur, ni odeur. Une prison pour ton esprit. Et il faut que tu saches que malheureusement, si tu veux découvrir ce qu'est la matrice, tu devras l'explorer toi-même. C'est là ta dernière chance. Tu ne pourras plus faire marche arrière. Choisis la pilule bleue et tout s'arrête. Après, tu pourras faire de beaux rêves et penser ce que tu veux. Choisis la pilule rouge, tu restes au pays des merveilles. Et on descend avec le lapin blanc au fond du gouffre. N'oublie pas. Je ne t'offre que la vérité, rien de plus.
Néo choisira évidemment la pilule rouge et quittera le monde des illusions pour celui de la vérité. Mais il lui faudra alors suivre l'apprentissage dispensé par Morpheus pour pouvoir enfin comprendre ce qu'est la matrice.
La matrice est un système, Néo. Et ce système est notre ennemi. Quand on est à l'intérieur, qu'est-ce qu'on voit partout ? Des hommes d'affaires, des enseignants, des avocats, des charpentiers. C'est avec leur esprit qu'on communique pour essayer de les sauver. Mais en attendant, tous ces gens font quand même partie de ce système. Ce qui fait d'eux nos ennemis. Ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que pour la plupart, ils ne sont pas prêts à se laisser débrancher. Bon nombre d'entre eux sont tellement inconscients et désespérément dépendants du système qu'ils vont jusqu'à se battre pour le protéger.
La pensée platonicienne sur la vérité trouve en Morpheus un très bon héritier. Celui qui recherche la vérité, celui qui entreprend de la révéler, se heurte à d'immenses difficultés et à un accueil qui n'est pas toujours amical. La mort de Socrate, condamné pour avoir perverti la jeunesse athénienne en lui enseignant à philosopher, est évidemment à retrouver implicitement dans le livre de Platon, qui a été l'élève de Socrate. Mais on peut aussi la voir dans le dernier opus de la trilogie, et le sort réservé à Néo. Allez, terminez les ordinateurs psychopathes et les cybercomplots. On se tourne vers une référence bien plus rigolote. Voici venu le temps de l'humour anglais et de la dérision. En 1978, le génialissime Douglas Adams crée un feuilleton radiophonique pour la BBC, qui, devant le succès rencontré, sera ensuite adapté sur de multiples supports. Télé, cinéma, jeux vidéo et surtout romans. Surnommée la trilogie en 5 tomes, la saga H2G2, sigle du titre original The Hitchhiker Guide to the Galaxy, raconte les aventures d'Arthur Dent, un terrien ordinaire qui, après la destruction de sa planète par les affreux Vogons, se retrouve à faire du stop dans l'espace, accompagné de son meilleur ami, Ford Perfect. Ce dernier n'est pas humain, comme Arthur l'a toujours cru, mais se trouve être originaire de Betelgeuse et écrit des articles pour le guide du voyageur galactique. Dans leur petit périple à travers l'espace, suivant les lois de l'improbabilité, Arthur et Ford se retrouvent sur le vaisseau de l'extravagant cousin de Ford Perfect, Zaphod Belbebrox, président de la galaxie en cavale, accompagné par la dernière terrienne, Trillian. C'est à bord du Cœur en Or, le vaisseau à générateur d'improbabilité volé par Zaphod, que tout ce petit monde va se rendre sur Magrathea, un monde mythique sur lequel il rencontre Slarty Barfast, un créateur de planètes qui nourrit une obsession esthétique pour les fjords. Cet étrange personnage va expliquer à nos héros que la Terre elle-même était une de ses créations, destinée à répondre à une commande un peu spéciale. S'ensuit un récit étonnant qui met justement en scène notre thème des ordinateurs. Slarty Barfast raconte en effet comment fut créé, il y a très longtemps, un super ordinateur nommé Pensée Profonde, destiné à répondre à la grande question de la vie, de l'univers et du reste. Après des millions d'années d'attente, l'ordinateur donne enfin la réponse. 42. Évidemment, cela ne fait que susciter d'autres interrogations et il apparaîtra par la suite qu'après la réponse, il soit nécessaire de trouver la question. C'est pourquoi les usines de Magrathea, sous la direction de Slarty Barfast, sont chargées de construire un second superordinateur, la Terre. Après des millions d'années d'évolution, elle doit enfin donner la grande question de la vie, de l'univers et du reste. Malheureusement, c'est le moment que choisissent les Vogons pour la détruire. Pas de bol, reste le chiffre 42 qui nous poursuit énigmatique. Si vous n'avez jamais ouvert un des 5 tomes de la trilogie H2G2, flagellez-vous un petit peu et courez chez votre libraire préféré acheter la saga. Peut-être qu'en ajoutant le fait que son auteur, Douglas Adams, a été scénariste pour la BBC, a travaillé sur la série Doctor Who et a collaboré avec les Monty Python, j'aurai achevé de vous convaincre. Apples, I'm home, gonna grab a fox, maybe play some hockey. My mouth is a liar. Beware. My feet are on fire. Who cares? I've never been shyer. I'm scared. If everyone's bumping around, because knowers know to know it, goers go to go it, showers show to show it. No one's gonna ask your name when you fade into forever gone. How could anybody maybe? How could anyone say right or wrong?
I love you.
And then tell you you're okay. Oh, I loved the ground once, and I kept my fingers warm. Everything was true, everything was true. When your penis fell apart,
oh,
and no one had a heart,
oh,
and no one had a chart to show you the right way. You who had to be a creature without specific features, there were no teachers to tell you what to say.
Rip out your guts.
Voilà trois œuvres cultes, trois œuvres de génie, trois œuvres à la fois très différentes par leur univers et le style de leurs créateurs, et qui entretiennent en même temps beaucoup de liens entre elles, le premier étant la réflexion sur la vérité. Si j'ai choisi ces trois œuvres pour cette émission, consacrée aux ordinateurs, c'est tout simplement parce que je les apprécie énormément. Le parti pris est évident ici, et j'ai très envie de partager avec vous ces références qui me sont chères. Mais le partage, ça va dans les deux sens. C'est pourquoi j'ai voulu créer une nouvelle rubrique, que l'on retrouvera dorénavant dans toutes les heures fantastiques, l'interview du fan. À chaque émission, un fan pourra partager avec moi et avec vous sa passion pour la SF et le fantastique, et évoquer une œuvre qui lui tient à cœur. Si vous souhaitez participer, n'hésitez d'ailleurs pas à me contacter via le site internet de la radio. Et cette fois-ci, c'est Vincent qui s'y colle. Bonjour Vincent, et merci d'avoir répondu présent pour cette interview du fan. Peux-tu te présenter rapidement aux auditeurs, bien que certains te connaissent déjà un peu ?
Bonjour, je m'appelle Vincent, 22 ans, toutes ses dents. Je suis un grand amateur de films, séries, livres, jeux vidéo et autres. Depuis peu, j'ai décidé de partager cette passion à travers une émission de radio, Showtime. Elle est diffusée tous les vendredis à 10h et 15h sur Radio Sainte-Afrique.
Tu es donc un fan de science-fiction, mais peux-tu nous en dire un peu plus ? Comment es-tu entré dans cet univers ? Quelle place tient-il dans ta vie ?
J'ai que 22 ans, mais je suis tombé très tôt dans ce monde. Comme beaucoup, je dirais que c'est Star Wars qui m'a lancé dans la SF, mais non. Ce qui m'a fait rentrer dans cet univers sont deux mangas, Albator et Ghost in the Shell. Après est venu l'intérêt pour les œuvres ciné et autres de ce genre. Cette passion tient une place importante dans ma vie. J'en mange à toutes les sauces. Au petit-déj, au nez, etc. Non, sérieusement, je profite de la SF sur quelconque support que ce soit. Livres, comics, films, séries, jeux vidéo. Niveau saga SF, j'affectionne particulièrement Firefly, Dollhouse, Vive Joss Whedon, Halo et Mass Effect. Après, oui, j'aime bien m'entourer d'objets d'un univers pour pouvoir dire que je me retrouve dans celui-ci. Mais je me sens plus proche d'un livre, d'une BD que d'une figurine. La figurine, elle reste fixe, on la bouge une ou deux fois, alors qu'un livre, les pages défilent, chaque lecture est une nouvelle aventure.
L'heure fantastique a pour thème ce mois-ci les ordinateurs. Quelle référence aimerais-tu partager avec nous à ce sujet ?
Lorsque j'ai eu écho du thème de cette émission, j'ai tout de suite pensé à Tron. Tron, film de 1982 dont l'action se déroule dans un monde virtuel, dans un ordinateur. Mais j'avoue que c'est la plus récente version du film qui résonne aujourd'hui à mon esprit. Tron Legacy, sorti en 2011. Au cast, nous trouvons Gareth Edlund, Olivia Wilde, Jeff Breed principalement. Pour résumer l'histoire, Sam Flynn est le fils du disparu directeur de Encom, Kevin Flynn. 20 ans après la disparition de son père, Sam se trouve projeté dans le monde virtuel de la grille. Le monde électronique des histoires de son enfance existe bel et bien. La peignée plus, Clou, un programme qui a l'apparence de Kevin, dirige la grille d'une main de fer. Sam va devoir en contrecarrer les plans. En effet, Clou a pour plan d'envahir le monde réel et de détruire l'humanité. Voilà brièvement le résumé du film. Dur d'en faire un court résumé tant l'univers de Tron est dense. Pour faire une critique rapide du film, il est vraiment sympa. Visuellement splendide, c'est le genre de film qui passe tout seul. On peut lui reprocher parfois quelques longueurs, mais rien de bien gênant. On se laisse prendre à cet univers. Un gros plus pour la BO qui a été réalisée par les Daft Punk. Elle fait partie de mes BO préférées de films. J'aime l'écouter de temps en temps pour me détendre, c'est sympa. Après, Olivia Wilde joue pour beaucoup d'intérêt que j'ai pour le film.
Une dernière question, Vincent. À ton avis, faut-il se méfier des ordinateurs ?
Je pense que oui. Je suis persuadé que Skynet existera un jour.
Merci de t'être prêté au jeu de l'interview du fan. On se quitte avec un morceau que tu as choisi. Il s'agit d'un extrait de la BO de Tron, Legacy, DRZ. On poursuit notre émission avec la prochaine rubrique consacrée au cinéma pour jouvencelles, aux navets manichéens et bien-pensants, au patriotisme douteux et au romantisme mielleux, j'ai nommé le film de Pucelle.
C'est vrai ce qu'on dit, vous êtes le fils d'un démon et d'une pucelle ?
Ouais, pourquoi ?
Vous avez plus pris de la pucelle.
Alors, pour cette émission, j'ai eu un petit problème. J'ai cherché, cherché et encore cherché, mais pas moyen de trouver un film de Pucelle sur le thème des ordinateurs. Ça doit être un complot misogyne, mais il semblerait que l'informatique, ça soit plus un truc de mec. Je m'érige bien entendu contre ce genre de préjugés et je demande solennellement aux producteurs hollywoodiens de sortir une bonne daubasse sur les ordinateurs à destination d'un public d'adolescentes. Je peux les aider pour le scénario, il n'y a pas de souci, c'est pas le plus compliqué dans les films de Pucelle. Du coup, qu'est-ce qu'on fait ? C'est ce que je me suis évidemment demandé. Eh bien, puisqu'il n'y a pas de film de Pucelle, peut-être trouverai-je un film de Puceau. On va donc laisser tomber le romantisme à deux balles des jeunes jouvencelles et s'intéresser à une espèce nouvelle, l'adolescent mâle. Et à quoi il s'intéresse, l'adolescent mâle, à part les ordinateurs ? Allez, vous le savez très bien, s'il a son paquet de mouchoirs à portée de main, ce n'est pas pour pleurer sur l'histoire d'amour de Bella et Edouard. Il était donc inévitable que le film de Puceau, que j'ai réussi à dénicher, parle d'ordinateur, évidemment, c'est notre thème, mais aussi un petit peu de cul. Une créature de rêve, c'est le titre du film réalisé en 1985 par John Hughes, raconte l'histoire de Gary et Wyatt, deux ados timides à la libido frustrée. C'est que s'ils se débrouillent pas mal avec les ordis, en revanche, les filles, ils n'ont pas le mode d'emploi. Et comme ce sont de vrais petits geeks, en voyant le film Frankenstein, ils ont l'idée de créer la femme parfaite à l'aide d'un programme informatique. L'expérience dépasse toutes leurs espérances et la cybernana prend forme dans le monde réel. Sa mission, faire de ces deux jeunes puceaux de vrais hommes en les aidant à prendre confiance en eux et à draguer des vraies filles, ce qui ne sera pas évident et donnera lieu à de nombreuses scènes comiques. Imaginez que les héros d'American Pie aient été aidés d'un programme informatique bien roulé et vous aurez une petite idée de ce film. Join us now and share the software. Now and share the software, you'll be free, hacker, you'll be free. Hoarders may get piles of money, that is true, hackers, that is true. But they cannot help their neighbors, that's not good, hackers, that's not good. When we have enough free software at our call, hackers at our call, we'll kick out those dirty licenses evermore, hackers evermore. Après cette formidable chanson du logiciel libre, une véritable petite pépite découverte sur Internet évidemment, passons à notre dernière rubrique, celle des conseils. Et si les ordinateurs prenaient le pouvoir ? Comment s'en débarrasser ? Comment savoir que l'on n'est pas dans la matrice ? Les ordinateurs sont-ils vraiment capables de répondre à la grande question de la vie, de l'univers et du reste? Toutes les réponses, toutes les astuces sont sur Radio Saint-Afrique pendant l'heure fantastique. Dans la série Star Trek, l'original je précise, deux épisodes mettent le valeureux capitaine Kirk et son équipe en prise avec des ordinateurs. Dans Return of the Harkon, l'Andru est un ordi qui dirige la vie de toute une planète. Dans The Ultimate Computer, M5 est également un ordinateur que les populations locales vénèrent comme un dieu. Ils ont en commun un petit côté dictateur qui ne plaît pas beaucoup au capitaine Kirk. Ainsi, malgré sa consigne de non-intervention, décide-t-il de libérer les peuples soumis aux tyrans informatiques. Cela n'est pas aisé, évidemment. Il lui faut confronter l'Andru à un paradoxe pour lui faire griller un fusible et exploser M5. Grâce au courageux capitaine de la Fédération, les peuples sont libérés du joug du vilain ordinateur. Se débarrasser d'un ordi, ce n'est pas si difficile en fait. Laissez tomber votre portable dans l'escalier, renversez du café dessus, mettez-le au lave-vaisselle ou jetez-le aux toilettes en tirant la chasse par-dessus et vous en serez libéré. C'est tellement facile qu'on y arrive parfois sans le faire exprès. Non, le véritable problème est au pluriel. Et si les ordinateurs et tous nos gadgets électroniques décidaient subitement de se révolter contre nous et de prendre le pouvoir ? Pour une fois, ce n'est pas d'un beau gosse bodybuildé à la gâchette facile qu'on attendrait notre salut. Dans un tel scénario catastrophe, le vrai héros sera le geek. Pendant que Musclor essaiera de comprendre la différence entre un PC et un Mac, le geek aura stoppé l'invasion en 3 raccourcis clavier. Et rien ne l'empêche d'être beau gosse en même temps, comme Neo et Trinity en fait, les hackers version cuir de Matrix. Mais justement, et si nous étions vraiment dans la matrice? Comment savoir? Le personnage de Sheldon, dans la série The Big Bang Theory, a sa petite idée sur la question.
You know how I know we're not in the Matrix?
How?
If we were, the food would be better.
Pour les non-anglophones, si on était dans la matrice, la bouffe serait moins dégueu. J'y ajouterais peut-être que la vie serait plus logique et les chaussettes moins trouées. Enfin, dernière chose et non des moindres, les ordinateurs sont-ils capables, comme le grand pensée profonde imaginé par Douglas Adams, de répondre à la grande question de la vie, de l'univers et du reste? Et surtout, sont-ils capables de nous sortir un truc moins énigmatique que 42? Frédéric Braun, dans sa nouvelle La Réponse, imagine un super ordinateur. Ses concepteurs décident de lui poser une question à la hauteur de ses compétences. Dieu existe-t-il ? Et le petit bijou informatique répond alors « Maintenant, oui !» Sans parler de l'ordi imaginé par Isaac Asimov dans sa nouvelle « Le détail clé », ordinateur qui refuse de répondre à toute question, quelle qu'elle soit, tant qu'on ne lui a pas demandé « S'il te plaît !» À l'avenir, ne criez pas trop sur votre ordi quand il met 5 minutes à charger une page, effleurez les touches de son clavier avec douceur, et surtout, méfiez-vous de lui. Cette émission touche à sa fin, merci à vous de l'avoir suivie. Nous nous retrouvons en juin pour une heure fantastique qui n'aura jamais aussi bien porté son nom. Nous marcherons aux côtés des super-héros et je promets à tous mes héros copains une dernière rubrique exceptionnelle avec de véritables conseils de pros. En attendant, soyez prudents car ils sont parmi nous.